siga. Yes, the metric I know, please see. Voilà. Donc, j'aime bien utiliser le vidéoprojecteur. Comme ça, si je perds les gens en route, je peux les rassembler plus tard. Ils peuvent regarder et voir, voilà, le message s'agit de ça. Voilà, donc j'utilise ça tout le temps maintenant pour aider les gens à rester avec moi. Voilà. Donc, quand on parle ici de comprendre l'amour de Dieu, vous avez perdu votre pasteur et en ce moment, c'est un moment pour mieux comprendre quand même combien Dieu vous aime. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Et encore, l'amour est quelque chose dont notre monde a besoin, n'est-ce pas? Quand on regarde les déchirements dans notre société, on voit la nécessité de l'amour. Et à nous, les chrétiens, d'abord de comprendre à quel point l'amour de Dieu est grand et à quel point nous devrions appliquer l'amour à notre vie. Et nous devrions vivre par amour. Et donc, Paul, c'était la prière de Paul. Et c'est ça qu'on va regarder ce matin, si vous avez votre Bible. On va regarder dans Éphésiens, chapitre 3. Et on va regarder là ce passage qu'on a cité au début, là, Éphésiens 3. Et donc, Éphésiens 3, verset 14 au verset 21, là, où Paul dit, « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Donc, Paul est en train de fléchir les genoux devant le Père, et il prie pour tous, et il dit, « Afin qu'il vous donne, c'est sa prière ici, « afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'âme intérieure, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et prions le Seigneur avant de continuer. Seigneur, nous nous courbons devant toi encore ce matin, nous fléchissons nos genoux aussi. Parce que nous voulons comprendre ce passage, nous voulons comprendre ton amour. Combien ton amour est plus que nous pouvons comprendre même. Mais nous te prions de nous aider ce matin, avancer dans notre compréhension de ton amour. Et ces choses, je te prie, au nom de Christ. Amen. Et donc, ce matin, nous voulons... Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, trois requêtes ici dans la prière de Paul qui nous aident à connaître la présence de Christ et son amour. Trois requêtes ici, requêtes de prière que Paul fait ici, qui nous aide, et le premier qu'on veut regarder ce matin, c'est le fait que nous expérimentions la présence de Christ et son amour par la puissance de l'Esprit. Regardons versets 16 et 17, là, parce qu'il dit, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et donc, Paul prie que nous soyons donnés d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Mais comment sommes-nous fortifiés dans l'homme intérieur? C'est ça la question. Le texte nous dit que c'est par son esprit. Rappelons-nous, depuis le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui arrive quand une personne croit en Jésus-Christ? Le Saint-Esprit entre dans sa vie. Si vous avez cru en Jésus-Christ, le Saint-Esprit est déjà là en vous. Regardons dans Éphésiens 1, on est dans Éphésiens 3, versets 13 et 14. Le verset 12 finit avec afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, et en lui, en parlant de Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Et donc, Jean-Baptiste parlait du fait que quelqu'un venait, Jésus-Christ, qui allait les baptiser du Saint-Esprit. Et aussi, Jésus lui-même a parlé du fait qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et donc, ce matin, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez déjà ce qui est décrit ici, vous avez le Saint-Esprit en vous. Donc, Dieu veut nous fortifier par son Esprit qu'il nous a donné. Et le Saint-Esprit en nous veut nous aider à dire oui à ce que Dieu veut qu'on fasse, et non à ce que Dieu veut qu'on refuse dans la vie. Vous êtes tentés par des choses, mais il nous a donné son esprit pour qu'on puisse dire non. Et pour qu'on puisse servir, même quand on n'a pas envie. Des fois, on arrive dans la vie, on n'a pas trop envie, mais le Saint-Esprit est là pour nous fortifier, pour dire, oui, je le ferai, Seigneur. Je pense à Paul et Silas, quand ils étaient battus à Philippe, dans la ville de Philippe. Ils étaient jetés dans la prison là, dans la prison. Mais pendant la nuit, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce que Paul et Silas faisaient pendant la nuit? Ils chantaient. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie d'une personne. Quand, plutôt que se plaindre, la personne est en train de louer Dieu. Voilà, love. C'est énorme, n'est-ce pas? Je ne peux pas imaginer à quel point ils étaient battus, mais ils sont en train de louer Dieu. Et donc, le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à vivre des choses difficiles, de trouver la grâce pour surmonter les épreuves dans la vie et les tentations. Et il ajoute là une phrase qui était intéressante dans Éphésiens 3, regardons encore. Il dit là, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Et la gloire est une autre indication des fois de la personne de Dieu. Par exemple, dans Romains 6, 4, il indique la puissance de Dieu. Par exemple, pensons à Romains 6, 4. Romains 6, 4, je le lis. Jésus fut ressuscité des morts par la gloire du Père. C'est intéressant. Il n'est pas dit par la puissance de Dieu. Là, il dit, Jésus fut ressuscité des morts par la gloire du Père. Et donc, parfois, le mot gloire devient une indication de la puissance de Dieu. La personne de Dieu. Et donc, ici, il est en train de dire être puissamment fortifié par son esprit, mais il dit là, selon la richesse de sa gloire. Et donc, la puissance de Dieu est là pour nous aider à faire ce dont nous avons besoin de faire. Il le dit dans le verset 17, il décrit ce qui se passe avec l'Esprit, il le décrit d'une autre manière, simplement, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Et donc, ça redit encore l'idée que le Saint-Esprit est en nous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut produire en nous? Pourquoi Jésus est parti et il a envoyé le Saint-Esprit? C'était pour produire Christ dans la vie d'une grande multitude. Vous avez le Saint-Esprit en vous et moi, justement pour produire la vie de Christ. Et c'est ça que Christ veut faire en nous. Et souvent, c'est au fond des difficultés et des épreuves de la vie que Dieu fait davantage cette œuvre. Il est en train de nous éprouver des fois, nous envoyer des choses, justement pour nous façonner et nous transformer. Et comme nous avons reçu Christ par la foi, la réalité et l'expérience de lui est liée à notre foi en lui. C'est en vivant par la foi que nous expérimentons pleinement Christ dans notre cœur. Galates 2:20 nous dit, regardons Galates 2:20, qui dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ma vie présente dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'aime et qui se livre lui-même pour moi. Et chaque jour, on devrait être en train de vivre par la foi. C'est ça qui est lié avec l'idée de l'esprit aussi. C'est-à-dire, on est en train de vivre chaque jour avec la foi en Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit. Est-ce que c'est agréable à Dieu si on n'est pas en train de vivre par la foi? Non. Car celui qui veut être agréable à Dieu, pour plaire à Dieu, selon Hébreux 11, il faut vivre par la foi. Et donc, la foi est ce qui nous met, ce que le Saint-Esprit veut faire en nous aussi, pour qu'on ait une foi qui est forte et capable de croire en Dieu en tout instant. La dernière partie du verset 17 arrive par l'action du Saint-Esprit dans notre vie, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Le grand amour de Dieu a été démontré par la mort de Christ sur la croix. Ça, c'est le grand événement d'amour, n'est-ce pas? Et justement, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Romains chapitre 5, verset 5 nous dit qu'il a versé l'Esprit en nous. Regardons Romains chapitre 5 et verset 5. Qu'est-ce qui nous est arrivé quand nous avons cru en Christ? Il dit, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et dans les épreuves là, il est dans un contexte là d'épreuves, que c'est là qu'on trouve davantage l'œuvre de l'Esprit, l'action du Saint-Esprit dans notre cœur, dans les difficultés de la vie, parce qu'il parle là de tribulation. Verset 3, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et donc, le Saint-Esprit a été versé en nous. Et c'est chaque jour, et surtout dans les épreuves, que nous pouvons expérimenter davantage cet amour. John MacArthur disait, « Si l'amour est absent, le péché est présent. Si l'amour est absent, le péché est présent. » Pensons au mariage dans notre société. Je suis étonné de voir combien de mariages chrétiens finissent mal. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu nous dit de faire? Il dit d'aimer votre prochain. Aimez votre prochain. Mais quand vous êtes marié, qui est votre prochain le plus proche? C'est votre conjoint. Et donc, c'est un défi pour nous. C'est un défi pour nous d'aimer notre prochain, surtout notre partenaire. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, selon 1 Jean 4, verset 20. Et donc, Dieu nous a rendus forts, justement. Il nous a donné son esprit pour qu'on puisse avancer dans notre connaissance de l'amour et expérimentons l'amour. Quel est le premier fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Et donc, le Saint-Esprit est en nous. Nous avons été fondés dans l'amour. Fondés par l'acte de Christ, qui est mort pour nous. Le Saint-Esprit a été versé en nous. Et le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et donc, l'amour est là, dans notre cœur. Et c'est à nous, par l'Esprit, de dire non à ceux qui nous empêchent de vouloir aider les autres. J'admets que pour moi, c'est difficile des fois. Parce que pourquoi? On aime le confort. N'est-ce pas? C'est plus facile de dire « Oh, je préfère rester chez moi » que aider telle ou telle personne. Quand il y a un déménagement, quand il y a un nettoyage à faire à l'église, quand il y a des choses à faire, c'est souvent plus confortable à dire « Oh, je préfère rester chez moi. » Donc, le Seigneur nous aide à laisser le Saint-Esprit nous pousser à faire des actes d'amour. C'est ça qu'il veut faire. Il veut produire en nous la vie de Christ. Nous voyons deuxièmement ici, dans le texte, que, justement, que nous comprenions l'incompréhensible grandeur de l'amour de Christ. Regardons ça dans le verset 18. Il parle d'être fortifié dans l'esprit dans le verset 16 et 17, et enraciné et fondé dans l'amour, justement pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et l'auteur. Donc nous avons l'amour en nous, justement pour encore comprendre l'amour de Dieu pour nous. pensons au cours de maths. Pour les gens qui suivent les cours de maths, pour faire des calculs, qu'est-ce qu'il faut connaître avant de faire des calculs? Il faut connaître d'autres maths qui sont la base. On ne peut pas comprendre les calculs si on n'a pas fait beaucoup de maths avant. Et je dirais, par rapport à l'amour de Dieu, le fait que nous avons accepté Christ, le fait que nous avons vu que Christ est mort pour nous, ces choses nous aident à déjà comprendre l'amour de Dieu. Et donc, je ne suis pas vraiment un musicien dans le jazz, mais quand on a demandé à Louis Armstrong d'expliquer le jazz, il a répondu, « Si j'ai besoin de l'expliquer, vous n'avez pas compris. » Et on peut dire presque ça par rapport à l'amour. C'est quelque chose que nous avons expérimenté et Dieu veut qu'on expérimente même davantage. Et donc, il a mis en nous déjà le Saint-Esprit et l'amour pour qu'on puisse comprendre justement davantage l'amour. C'est intéressant, dans le verset 18, il parle de comprendre avec tous les saints l'amour. C'est comprendre d'une manière intellectuelle. Mais verset 19, il dit « et de connaître l'amour du Christ ». Et là, c'est l'expérience. Donc, il veut qu'on comprenne mentalement, mais c'est pour connaître d'une manière expérientielle l'amour de Dieu. Et déjà, si je vous parlais de la grande l'amour. Ça, c'est déjà une chose. Si je dis, bon, Paul parle ici de la grandeur de l'amour, mais quand il commence à parler ici dans le verset 18, de la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, oh, ça c'est quelque chose qui va dans tous les sens. Un commentateur a expliqué les directions ici de l'amour dans ce passage en disant que vous voyez la largeur de l'amour de Dieu en ouvrant la porte aux païens. Si vous lisez dans cette épître aux Éphésiens, dans le chapitre 2, il parle du fait que Dieu a enlevé la barrière entre les juifs et les païens, et justement les païens peuvent entrer dans l'église en grand nombre. Ça, c'est la largeur de l'amour. Avant, il semble que la croyance était plus restreinte aux juifs, mais maintenant c'est ouvert, même aux païens. On voit la longueur de l'amour, il disait, ce commentateur, dans le choix de Dieu avant la fondation du monde. Si vous lisez dans le premier chapitre, que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est la longueur. Il dit aussi la profondeur se voit dans le fait que son amour s'étend au niveau le plus bas de l'humanité pour sauver les plus dépravés. Ceux qui sont loin de lui. Nous sommes étonnés des fois de voir que telle ou telle personne vient à Christ. Pensons même à l'apôtre Paul. À l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Paul faisait avant de devenir chrétien? Il persécutait l'Église. Et presque le pire ennemi du christianisme a devenu son apôtre qui a travaillé, il dit dans 1 Corinthiens 15-10, « J'ai travaillé plus que eux tous, et non pas moi toutefois, mais Christ qui était avec moi. » Et donc, on voit la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, à quel point c'était énorme pour même considérer quelqu'un comme Paul, et puis de le sauver et faire de lui son plus grand apôtre là. On peut le voir aussi, son hauteur de son amour se voit dans le fait que nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons tout. Donc dans tous les sens, ces explications nous aident, mais ils ne font que commencer à expliquer la grandeur de l'amour de Dieu. Je lisais l'autre jour par rapport à un homme qui s'appelle Lowell Lefermé, je ne sais pas si vous le connaissez ou non, c'était un monsieur qui il voulait connaître de plus en plus ce qui est de aller dans les profondeurs de la mer. Je pense qu'il est arrivé, je ne sais plus combien de c'était à quelle profondeur il est arrivé à descendre, mais il voulait connaître jusqu'à ses limites, qu'est-ce qu'il pouvait faire. Et malheureusement, un jour, il est mort. Il est mort à cause de ça, en essayant d'aller plus profondément dans la mer. Mais la mer est une bonne illustration pour nous, justement, de la grandeur de Dieu. Quand on voit la mer, ça illustre bien la profondeur, parce que la mer est tellement profonde. Et l'amour de Dieu est encore plus profond. On a aussi en anglais une déclaration, on dit souvent, the sky is the limit. The sky is the limit. Le ciel est la limite. Le ciel. C'est-à-dire, on peut faire, tout faire, le ciel est la limite, c'est-à-dire c'est illimité. Et c'est vrai, le ciel est presque illimité maintenant, l'espace. Mais je dirais que même l'amour de Dieu est encore plus grand. Plus grand que notre univers. L'amour de Dieu nous dépasse. Quelle est la prière de Jésus sur la croix par rapport aux gens qui cherchaient à le tuer, qui l'ont battu? Qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur. Et il veut cultiver ça en nous. Il veut cultiver ça en nous. On arrive à dire, oui Père, pardonne à cette personne-là. Pardonne à cette personne. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. Si vous avez encore une dent contre quelqu'un. Parce que quelqu'un vous a fait mal. Mais je dirais, Dieu veut qu'on arrive à pardonner. C'est cette histoire justement où un homme devait, je ne sais plus c'était combien de talents qu'il devait. Et justement, son maître lui a pardonné une dette qui était en fait, il fallait presque 200 ans pour repayer en gagnant un denier par jour. Il fallait un grand nombre d'années, presque 200 ans pour repayer cette dette. Et son maître lui pardonne tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve quelqu'un qui lui devait 100 deniers, c'est-à-dire 100 jours de travail, l'équivalent. Et il le secoue en disant, paye-moi ou je te jette en prison. Et cette personne n'avait pas compris l'amour de Dieu pour eux. Et pour nous aujourd'hui, on veut que Dieu nous pardonne, même tout. Mais des fois, on est en train de retenir quelque chose contre les autres. L'amour de Dieu nous pousse à aussi pardonner aux autres leurs offenses. À quoi ressemble l'amour de Dieu? L'amour de Dieu est parfait. Il peut parfaitement aimer ceux qui se posent à lui et qui la haïssent. Et Jésus a déjà démontré ça. Pensons à vous-même, sans le pardon et sans l'amour de Dieu, nous serions tous destinés à l'enfer. Et c'est l'amour de Dieu qui a satisfait les exigences de Dieu quand Christ est mort pour nous. Mais c'est un acte d'amour que Jésus s'est donné pour nous-mêmes. C'est un acte du Père en donnant son Fils. Et il veut qu'on arrive à servir les uns les autres par amour. Au corps du Christ. Dans le corps de Christ, il veut qu'on se serve les uns les autres. Il nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Vous avez des ennemis? Des gens qui ne vous aiment pas? Ou que vous n'aimez pas? Mais ça ne devrait pas être le cas pour les chrétiens. On devrait aimer tout le monde. Et Paul présente-nous un paradoxe ici. Un paradoxe, c'est-à-dire des choses... Ici, il nous invite à comprendre l'amour de Christ, mais qu'est-ce qu'il dit à l'égard de cet amour? Quelle est la largeur, la longueur, et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance? C'est-à-dire, il veut qu'on connaître un amour qui dépasse la capacité de le comprendre. Mais c'est ça. Et c'est intéressant, le prière qui suit, regardons verset 20. Si vous pensez, bon, ça ne vaut pas la peine de chercher alors de comprendre l'amour de Christ parce que ça dépasse la compréhension. Mais il dit dans le verset 20, alors celui qui par la puissance qui agit en nous peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Donc, c'est presque une invitation alors de chercher à comprendre, supplier Dieu, aide-moi à comprendre davantage ton amour. Aide-moi à comprendre. Cherchez à comprendre. Parce qu'il dit là, Dieu peut vous aider à comprendre. Parce qu'il dit infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, nous pensons. Donc, ça vaut la peine de chercher et de prier Dieu. Et chercher à comprendre l'amour de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Corrie Ten Boom, et quand elle était dans un camp en Allemagne, elle était prisonnière là, et il y avait un bourreau qui a tué sa sœur. Et justement, un jour, elle était dans une réunion, une conférence, et elle parlait du pardon. Et justement, le bourreau qui a tué sa sœur est venu vers elle. Et je ne sais pas si elle a même fait la connexion, mais elle le voyait, elle le reconnaissait, et justement, quand il est arrivé, il a dit, j'ai commis des atrocités moi-même. Est-ce que d'une manière symbolique, vous pouvez m'accorder le pardon de ce que j'ai fait? Et en elle, c'était difficile, mais elle a quand même tendu la main vers lui et dit oui. Et je dirais simplement pour nous, quand il y a des situations qui ont été difficiles, on peut trouver l'aide de Dieu pour aimer. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes fondés dans l'amour. Et justement, nous pouvons aimer les autres. Et donc, l'amour n'est pas quelque chose simplement que nous recevons, mais aussi c'est quelque chose que nous montrons aux autres. J'étais chez des amis il n'y a pas longtemps, et justement, ils assistent de temps en temps dans nos réunions pour des événements spéciaux, et l'une des jeunes filles disait qu'une chose qui les marque toujours, c'est la joie et l'amour qu'ils voient dans l'assemblée. Et ça les touche profondément. Et finalement, peut-être plus brièvement, ici, le dernier point, c'est que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Ça, c'est la troisième requête ici. Il dit là, fin du verset 19, « Connaissant en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Toute la plénitude. Et c'est la suite que de ce qui vient d'être dit. Des fois, l'homme est plein de joie. Quand une équipe gagne, des fois, les gens, les supporters, sont dans une pleine joie. Ça peut être pour beaucoup de choses. Lors des mariages, il y a une grande joie. Quand on reçoit des fois son diplôme, on est dans une grande joie. Mais ici, il parle de la plénitude de Dieu. Soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Colossiens 2, versets 9 et 10, nous dit que toute la plénitude de la divinité réside en Jésus-Christ. Et nous pouvons avoir toute cette plénitude. Et en tant qu'être humain, c'est seulement en connaissant l'amour de Christ que l'homme puisse s'approcher de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu nous offre, que Dieu nous offre, est sa présence et sa puissance. Son règne est la puissante vie et la vie ressuscitée de Jésus-Christ. Mais encore, c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide. Dieu nous a donné son esprit pour nous aider à aimer. Et des fois on dit, qu'est-ce que c'est Dieu? Durette amour, n'est-ce pas? Et c'est au fur et à mesure que nous expérimentions, que nous connaissions cet amour qu'on vient de voir, que nous pouvons être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, que nous soyons remplis d'amour dans tous nos contacts, dans tous nos agissements. Et c'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut nous transformer pour qu'à chaque instant, on est en train de vivre comme Dieu veut. Avons-nous trouvé notre plénitude en lui? C'est-à-dire, Dieu veut nous satisfaire d'abord aussi nous-mêmes. Trouver notre satisfaction en lui, trouver cette plénitude en lui. Souvent, on est à la recherche de quelque chose qui comble ce manque. Mais Dieu lui-même est capable de combler ce manque en nous. Des fois, on essaie de remplir ça avec des activités et autre chose, mais Dieu veut être celui qui nous comble. Et malgré les activités, des fois, l'homme reste insatisfait. Et on cherche dans ces autres choses, on ignore le fait de méditer sur Dieu, de penser à cet amour, de réfléchir à cet amour que Dieu a pour nous. Donc je vous encourage, plutôt que chercher à être comblé par Facebook ou par d'autres activités, je dis aux gens que la Bible, c'est le Facebook de Dieu. C'est son book. Et c'est bien de mettre notre face dans son book. Voilà. Et donc, et c'est là, Dieu veut nous satisfaire avec sa présence. Nous sommes à la recherche des choses pour nous combler, pour nous donner une grande satisfaction. Mais Paul est en train de dire ici, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et donc cet amour peut nous combler et nous satisfaire. Et comme je disais tout à l'heure, ça semble difficile, mais le verset 20 nous dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Mais nous avons tout en lui. Il y avait un mendiant. Il demandait des pièces à tout le monde qui passait. Et quand il a vu le visage d'un homme qui passait, il a reconnu son père. Il a dit, « Père, c'est moi !» Et son père l'embrassait. Il a dit, « Cela fait 18 ans que je te cherche. Et tout ce que je possède est à toi. » Et le père était à sa recherche. Le père était, il cherchait son fils. Son fils était dans la pauvreté. Est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Dieu est à notre recherche et nous sommes dans la pauvreté. Je vous encourage à trouver votre satisfaction dans votre Dieu. Pour conclure simplement, Paul ici, il prie par rapport à leur qu'ils soient fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider ensuite à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu. Je vous encourage aujourd'hui et dans les jours suivants de réfléchir à la grandeur de l'amour. À quel point c'est grande à votre égard. Que Dieu a œuvré dans votre cœur pour que vous veniez à lui. Et puis réfléchissez encore, à qui devrais-je montrer cet amour? Alors que le Seigneur fait en nous des personnes qui sont satisfaites. Que cet amour de Dieu satisfait notre cœur humain. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin de nous aider, de nous combler. Tu connais nos cœurs ce matin. Et tu sais celui et celle qui a besoin de plus. De connaître davantage, en fait, nous tous. Donne-nous, Seigneur, de chercher à connaître cet amour qui est si grand nous avons simplement gratté la surface de ton amour souvent. Et donne-nous de plonger nos racines plus profondément dans ton amour pour être satisfait de toi. Tu veux combler le cœur humain. Et je prie ça pour chacun d'entre nous. Comble nos cœurs en nous aidant à connaître davantage ton amour.